Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
Bon, démarrons par le dossier du jour. C'est évidemment Mbappé. Il faut qu'on en dise, faut qu'on dise ce qu'on en pense hein, dans l'after. Je vous rappelle les infos. Donc au moment de sa prolongation, déjà qui avait fait, rappelez-vous, les débats, la prolongation, pas de prolongation, quelle durée, etc. Bon, donc c'était en 2022. Mbappé avait signé pour 2 ans plus une année supplémentaire. Et c'est cette année supplémentaire qui est aujourd'hui au cœur du problème ou pas du problème, on va voir. Puisque en fait, Mbappé peut ou pas l'activer selon son bon vouloir, selon son désir, selon le désir du prince.
Bah, s'il n'y a pas de désir du prince, si c'est ce qui est indiqué dans le contrat.
Oui, c'est très bien, je rappelle, ouais. Je rappelle les faits. Là.
Tu rappelles pas les faits, tu as mis une pointe d'ironie dans ton rappel des faits.
J'ai mis une pointe d'ironie.
Ah bah oui,
je pense que Gilbert a raison.
Je trouve que
on va y revenir.
Je trouve que c'est déplacé.
Une clause scélérate, à mon sens. On va y revenir.
Carrément. Scélérate.
La tête qu'il a fait.
Bah oui. Mais je comprends pas.
Bah, qu'est-ce que c'est qu'un contrat où tu décides toi-même
Laisse-moi juste.
C'est toi qui décides tout.
Je vous donne avant qu'on débatte.
Tu sais, les joueurs de foot, globalement, c'est comme ça que ça se passe.
Daniel, il y a des négociations quand même. Laissez-moi vous expliquer, en fait, les éléments qui pourraient faire qu'il ne prenne pas cette année en plus. En fait, bon, il est quand même globalement, évidemment, déçu du contexte général au club. Pas content du mercato estival de l'an dernier. Que ce soit dans le sens de l'arrivée, des arrivées et des départs, apparemment.
Tout ça, on peut pas lui donner tort.
Nous font savoir notre cellule investigation, notre équipe d'investigation autour du PSG. Et puis bon, s'ajoute à ça les sollicitations des grands clubs, Real évidemment, et Manchester United qui suivrait de près également la situation de Mbappé. En fait, quel est le problème aujourd'hui?
On peut avoir Mbappé et Neymar à Manchester United, peut-être.
Le problème aujourd'hui, c'est que si Neymar n'active pas cette dernière année, ben ça veut dire que dès ce mercato, le PSG doit gérer le cas, parce que sinon, au janvier, au mercato d'après, il pourrait partir pour zéro. Voilà. Donc en fait, le problème arrive sur la table tout de suite. Voilà. C'est pour ça que ça arrive maintenant également sur la table de l'after. Les gars, chacun va pouvoir défendre maintenant son point de vue, qu'il soit scélérat ou non.
Eh ben vas-y Thibaut.
Il y a un chenapan et un scélérat.
Vas-y Thibaut, puisque visiblement c'est un contrat.
Ça me semble un peu. Alors là, pour le coup, je parle en regard de ce que tu disais tout à l'heure dans les infos que tu as données. D'un point de vue strictement, si je peux dire philosophique, c'est un peu bizarre un contrat où il n'y a qu'un seul co-contractant qui choisit de prolonger son propre contrat. Alors il y a eu les clauses automatiques. Je sais que Neymar c'est le cas aussi, ça a été le cas aussi. Mais dans le cas de Mbappé. Attendre la décision du joueur pour savoir s'il va prolonger lui-même son contrat, bah, c'est pas un contrat. C'est entre le diktat et le contrat. C'est-à-dire que c'est lui qui décide finalement de prolonger lui-même son propre contrat. Donc un contrat, par définition, c'est un échange de volonté. Hein. Donc là, s'il n'y en a qu'un qui a qu'une seule volonté qui s'exerce, bah, c'est plus un contrat, c'est un décret. Donc c'est plutôt une sorte de décret signé par le prince Kylian Mbappé. Bon, mais c'est assez fidèle à sa position au club en réalité.
Bon, alors déjà mon point de vue est pas du tout celui-là. La prolongation de Mbappé et le fait de vouloir garder Mbappé au PSG, c'est devenu. Il faut remonter à l'interview de Nasser Al-Khelaifi, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, où il avait dit, en gros, quand on débattait déjà de l'éventuel départ du joueur, il ne partira jamais, ou pas comme ça, ou en tout cas pas cet été, ou un peu comme on veut nous. Et c'est devenu une obsession. Une obsession teintée de considérations diplomatiques, politiques, économiques, industrielles. Hein. C'était.
Emmanuel Macron s'en était mêlé, hein. Tu l'as pas dit. Emmanuel Macron s'en était mêlé.
Mbappé
En 10 ans, j'aimerais bien qu'il reste.
Mbappé doit rester au PSG l'année où la Coupe du Monde va se jouer au Qatar. C'était quelque chose de qui était devenu complètement fou.
On est à deux doigts de faire de même, de signer une loi à l'Assemblée nationale pour comme pour que ça a été le cas de Pelé, qui a été décidé très en national.
Les Qataris, il fallait qu'ils envoient un signe qui était hyper fort. C'était vraiment plus important que tout à leurs yeux. Ça se résumait à une chose, tout faire pour le garder. Il y a le voyage de sa maman à Doha. À partir du moment où tu raisonnes en « on est prêt à tout et il ne partira pas parce qu'on donnera tout », tu ne peux pas être étonné dans la foulée que la personne à qui tu as dit « on est prêt à tout, on va tout donner » abuse et on arrive à ce contrat que toi tu dénonces, mais que je ne dénonce pas parce qu'il a forcé personne. Et c'est le PSG qui, dans une politique.
Je décris le contrat. Je dis qu'il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant d'avoir un joueur qui se prolonge lui-même.
Non, ce qui est étonnant, c'est pas un contrat, c'est un décret. Ce qui est étonnant, c'est la politique sportive du PSG, c'est les considérations de Nasser Al-Khelaïfi, c'est d'en faire des affaires personnelles, de mettre de l'affect, de mettre dedans que s'il part, c'est une humiliation pour tout le pays.
De mettre un joueur au-dessus du club.
C'est une humiliation pour tout le monde, que tu es prêt à mettre le joueur au-dessus de tout le monde. Moi, je me souviens quand les gens rigolaient, quand je disais, mais en 2021, je disais, mais attends, Mbappé, moi, je le kiffe, hein, je l'adore. Hein. Mais s'il part, il y a d'autres joueurs. Hein. Il y a énormément d'équipes qui gagnent la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Il y a des équipes qui gagnent la compétition.
D'ailleurs, c'est souvent le cas, d'ailleurs.
C'est pour ça que je le dis.
Et pourquoi ?
Là, c'est moi qui mettais une pointe d'ironie. Il y a plein d'équipes qui s'en sortent très bien sans Mbappé. Tu peux le remplacer. Je me souviens, à l'époque, j'avais dit, il y avait les joueurs en forme de l'époque. Il y avait Son à Tottenham, il y avait Rashford. Il y avait des joueurs comme ça. Je dis, mais l'idée n'était pas, ils sont meilleurs que Mbappé ou Mbappé est moins bon qu'eux ou quoi. Ok, c'est juste, il n'y a pas de joueurs irremplaçables. Tu construis ton équipe autrement. Tu fais ce que tu veux pour remettre une équipe sur pied. Mais d'abord, et ça a toujours été mon point de vue, tu ne retiens jamais un joueur contre sa volonté. À un moment, tu le prends dans le bureau, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire.
Et tu
ne te mets pas en danger, de te retrouver, et c'est exactement ce qui va se passer.
Tu ne confies pas la destinée de ton club à la volonté d'un joueur.
À la volonté d'un joueur. Avec le risque qu'à un moment, ce joueur qui quand même, c'est pas comme un joueur de 30 ans ou de 35 ans, tu dis c'est bon, je l'ai emmené au bout de son contrat. Là, c'est un joueur que tu dois transférer au minimum 100 millions, 150 millions, j'en sais rien. Mais c'est un joueur que tu dois transférer. Cette obsession initiale peut te conduire à le perdre gratuitement, ce qui serait une aberration totale. Mais c'est les Qataris qui se sont mis dedans. Moi, ça, je ne vais pas reprocher à Kylian Mbappé des choses que les dirigeants ont fait. Donc aujourd'hui, c'est le roi. Il se prend pour LeBron James. Je fais ce que je veux. J'ai dit, prenez ce directeur sportif qui lui a dit, je vais prendre cet entraîneur. Bon, il a pas pu aller au bout du délire de je vais tout faire parce qu'ils ont même pas pu recruter comme lui avait envie qu'il recrute parce qu'ils étaient tenus par Messi, par Neymar, par d'autres joueurs qui avaient également des gros contrats. C'est toute la salade qatarienne gros contrats, du ménage que tu peux pas faire, de tous ces joueurs que t'as prêtés aux quatre coins de l'Europe, que tu vas devoir récupérer cet été, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, qui ne font plus rien sur les terrains. Toute cette salade, à un moment, elle va te revenir dans la gueule. C'est évident qu'elle va te revenir dans la gueule. Et ça va provoquer une indigestion.
Ce qui est un peu bizarre dans
cette salade.
Ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, c'est que le seul, en réalité, qui pense au football dans cette affaire, en priorité, je puis dire, c'est Mbappé.
Bah oui.
Le problème, c'est que la situation se retrouve à être beaucoup plus qu'un joueur de football.
Bah oui.
C'est plus bien même sûr. Quasiment que le président, parce que c'est pas dit que si Mbappé part, que les jours de Nasser soient pas comptés au PSG, parce que ce serait quand même un affront que Kylian parte.
Je sais pas si c'est un affront, c'est en tout cas comme ça que Nasser l'avait vécu.
En termes de pouvoir.
Il y a deux étés, il aurait vécu ça comme un échec personnel.
Bien sûr.
Aujourd'hui, la question, ils vont devoir se la poser. Moi, je pense qu'il va rester. Et je pense que, comme le contexte a changé par rapport à il y a deux ans, où c'était là le grand défi de « il partira pas » jusqu'à ce qu'on avance à l'été dernier, au mois de mars de l'année dernière, quand il a donné son accord définitif après le voyage de sa mère à Doha. Bon, ben là, maintenant, s'ils sont prêts à faire le truc de « tu l'actionnes pas ta clause », de toute façon, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation.
C'est quoi l'intérêt de mettre cette clause, en fait ? Ça sert à quoi ?
Mais j'en sais rien, moi.
Ça sert à quoi ? À part
feuilletonner.
Non, mais c'est une clause que lui a dû demander.
Mais
comme il était en position de force.
Parce que ces gens, je fais ce que je veux. Parce que, comme ça, je ne serais pas bloqué si je veux me barrer. Je ne serais pas bloqué si les bons clubs demandent trop d'argent et qu'il n'y a personne sur le marché pour payer mon transfert. Donc c'est j'achète ma liberté. Et comme les gars en face avec qui je discute, eh ben ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout me donner, quitte à ce que je parte gratos dans deux ans. Eh ben j'en profite. Et il en a profité. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, le PSG va peut-être se retrouver dans la merde par rapport à ça, mais peut-être qu'ils vont l'assumer. Peut-être que quand Mbappé partira l'été prochain gratuitement, ils diront « Eh ben ok, merci Kylian de tout ce que t'as apporté,
ma question,
on va reconstruire autrement. » Peut-être, mais moi en tout cas…
Je me demande s'il n'est pas dans une impasse, Mbappé, au bout d'un moment. Parce que quand tu acquiers autant de pouvoir dans un club, aussi important que le Paris Saint-Germain, parce que ça reste un grand club européen, quand tu acquiers autant de pouvoir, comment tu fais si tu changes ? S'il va un jour à Liverpool, au Real, à Manchester United,
il n'aura pas ce pouvoir-là.
Est-ce qu'il va vouloir y aller ? Est-ce qu'il va accepter d'avoir un peu moins de pouvoir ?
C'est une vraie réflexion pour lui.
Est-ce que, parce que tu prends goût au pouvoir. Parce que lui, c'est pas l'argent son truc. Enfin, même s'il en a beaucoup, on sent quand même que à travers sa mère, à travers sa fondation, il y a quand même l'idée d'influer sur le sport, le débat sur les droits individuels, sur les droits à l'image. Le capitaine en équipe de France, la question du racisme, on sent que c'est quelqu'un qui veut incarner des causes, qui veut et qui en quelque sorte veut exercer de l'influence, c'est-à-dire aussi dans un club comme ça du pouvoir. L'arrivée de Luis Campos, le départ éventuel de Neymar, tout ça vient d'un pouvoir qui est exercé aussi par un joueur. Donc quand tu exerces un tel pouvoir dans ton club, dans ta sélection, parce qu'oubliez pas maintenant qu'il est capitaine aussi de l'équipe de France, comment tu fais le jour où tu vas au Real et tu dis non mais ici il y a pas de chef, le chef
mais ça,
c'est
Thibaut, c'est une question que lui doit se poser. Nous la question,
je sais pas s'il va arriver à partir.
Exactement.
C'est difficile.
Donc ça c'est la question. Lui c'est lui qui décidera, puisqu'il s'est mis dans une situation et le club lui a permis cette situation de faire ce qu'il a envie. Donc il fera bien ce qu'il a envie. Moi la conclusion dans cette histoire, c'est celle que je dis tout le temps, je vais le répéter. Un départ de joueur ne doit jamais être dramatique. Ça ne doit jamais être vécu comme un drame. Il faut penser à le remplacer, à construire le collectif, parce que c'est ça qui doit toujours primer. Tu vas perdre un joueur qui faisait des grosses différences, mais de toute façon, ça fait 2 ans que le collectif dans cette équipe n'existe pas. Donc, qu'il reste, qu'il parte, même s'il reste et qu'il continue à être le roi l'année prochaine avec tous ses pouvoirs-là, tu ne pourras rien construire si c'est comme cette année. On attend que Mbappé mette les buts pour qu'on soit champion. Parce qu'en Ligue des Champions, de toute façon, tu iras nulle part avec ce cas de figure et cette config Mbappé, tout pour le tout pour Kylian.
Tu peux gagner,
le tout pour Kylian, tu seras champion et tu iras pas plus loin. Donc, quoi qu'il en soit, la reconstruction collective, elle doit déjà intervenir. Et aujourd'hui, moi, je vais te dire, je pense que majoritairement, les supporters du PSG, ils en ont pas grand-chose à cirer, moi, je pense. Évidemment, attends. Je vais compléter. Il y a ceux qui le kiffent. Moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup ce joueur.
Même,
mais aujourd'hui, je pense
que Neymar et Messi, ça c'est certain.
Aujourd'hui, moi, je pense que ce qui importe principalement les supporters du PSG, notamment après cette année terrible, c'est que va-t-il se passer ? Qui sera notre entraîneur ? Qu'est-ce qu'on va recruter comme joueur ? Et est-ce qu'on va enfin avoir un collectif avec des joueurs qui vont jouer ensemble sur le terrain, qui vont faire les efforts tous ensemble, qui ne vont pas snober les supporters, comme encore à Auxerre samedi, où il n'y en a pas un qui est allé saluer le parkage, pas un seul, encore une fois, au moment où le CUP a négocié sa réconciliation avec le club, il n'y en a pas un qui est venu. Tout ça, c'est ça qui importe les supporters aujourd'hui. Le départ des uns des autres, de Neymar, de Verratti, de Kylian, de Messi, de machin, je pense qu'aujourd'hui le PSG et les supporters du PSG, ils ont besoin de retrouver une équipe et une âme à ce club.
Le truc,
les desiderata et les petits caprices des uns et des autres, je pense que ça a gonflé tout le monde.
À partir du moment où tu lis le destin de ton club à la présence ou non d'un seul joueur, tu peux pas, d'un autre côté, prôner le collectif, prôner, il y a une idée plus grande que nous. Non, c'est pas possible.
Mais en tout cas, il va falloir.
Mais de fait, c'est pas possible.
Parce arriver,
le signal que tu envoies et ce que toi tu fais, en comparaison avec ton discours est totalement contradictoire. Donc tu peux pas ensuite exiger des autres qu'il y ait pas de passe droit, qu'il y ait pas de priorité, qu'il y ait pas de joueurs qui soient favorisés les uns sur les autres.
Tu sais,
chacun réclame un statut particulier.
Tu sais très bien comment on en est arrivé là. Il y a eu ce qu'on peut appeler la déglingue du collectif. C'est en gros, on va dater ça de 2010 pour faire simple. C'est la domination Messi-Ronaldo et le partage des ballons d'or. Ça a déglingué toutes les visions du foot en pensant qu'il y avait 10 plus 1 dans toutes les équipes, qu'il y avait 10 joueurs plus 1. Mbappé, il s'est inscrit dans ce raisonnement-là. Moi aussi, je serais le 1 du plus 10.
C'était le franchise player. Mais
encore une fois, le City de cette année montre que le foot peut fonctionner autrement. Le Liverpool de Klopp a montré que ça pouvait fonctionner autrement. Et en fait, c'est même un faux 10 plus 1. Parce que quand le Barça de Messi gagnait, c'était pas un vrai 10 plus 1. Le collectif, il était extraordinaire. Et le Ronaldo des trois titres de suite, on a trop vendu et on est beaucoup, même moi quand je disais Benzema, tout le monde est au service de Ronaldo, que va-t-il se passer quand il va partir, bah derrière ils ont continué quand même à gagner la Ligue des Champions, le Real. Donc le collectif il était très fort derrière Cristiano Ronaldo au Real Madrid quand même.
Le mec qui a théorisé le franchise player dans le football, qui a dit qu'il fallait avoir un modèle fondé sur des grandes icônes comme ça, sur le modèle de la NBA, qu'il fallait organiser un club autour, un collectif autour de ta tête de gondole, quoi, pour parler en français, bah, il s'appelle Ferran Soriano et c'est le directeur général de Manchester City qui est en train de faire exactement le contraire. Donc
je savais pas que Soriano avait théorisé là-dessus.
Il a écrit un bouquin qui s'appelle Le ballon ne rentre jamais par hasard.
Dans son bouquin,
un des premiers chapitres, il explique ça très, très clairement. Il donne l'exemple de Messi, l'exemple de Ronaldo et du business model créé par les Galactiques. Il reconnaît que c'est un business model qui est en partie créé par les Galactiques. Et ensuite,
le business model, c'est une chose. L'expression collective de l'équipe, encore une fois, il suffit de prendre l'équipe qu'il y avait avec Messi. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, quand l'équipe,
en l'occurrence,
quand les milieux de terrain, les monstrueux, Xabi, Iniesta, quand ils ont arrêté d'être forts collectivement, ça a donné le Messi qui était effectivement le 10 plus 1 à partir de 2016-2017. Et le Barça en Ligue des Champions ne faisait plus rien.
En réalité, je pense qu'il y a une évolution aussi dans ces grands clubs-là où la tête de gondole, pour parler en français, dans le cas de City, dans le cas de Liverpool, c'est plus le joueur, c'est l'entraîneur. La tête de gondole de City, c'est clairement Guardiola. Liverpool, c'est clairement Klopp. Donc,
je trouve que c'est pas plus mal.
Et que la priorité du Paris Saint-Germain,
à l'époque, c'était Giroud. Giroud, l'entraîneur.
Parce que l'entraîneur, c'est l'homme du collectif, par essence même. C'est le seul qui représente l'équipe. Donc, c'est pas plus mal. Et peut-être que
Mourinho a été également le leader des clubs à l'Inter quand il entraînait.
Et que l'énergie dépensée à vouloir retenir absolument Mbappé, sous-entendu, il va bien finir par partir. Parce que si tu veux retenir quelqu'un, c'est qu'il a envie de partir. Donc, cette énergie, cet argent dépensé à faire ça, est-ce qu'il ne faudrait pas le dépenser à construire un projet autour d'un entraîneur solide qui va représenter effectivement ce collectif que tu peux prôner par ailleurs? Tout ce qui va être des éléments de langage sur si on construit un collectif, on construit une équipe, tout ça, pour moi, à mon sens, c'est du bavardage tant que tu t'obsèdes, t'es obsédé par le Mbappé.
De toute façon, bavardage. Généralement,
pour pas dire du bullshit,
on ne retient pas. C'est comme dans un couple. Si tu commences à retenir la femme ou l'homme, c'est que le verre est dans le fruit.